Bonsoir, comment allez-vous? Peut-être avez-vous entendu comme moi cette publicité où une femme propose à un homme de déjeuner au restaurant et il répond « il faut que j'envoie une lettre commandée ». On comprend que c'est mort pour le déjeuner. Et une seconde plus tard, il enchaîne « ah yeah, c'est fait, on va chez l'Italien ?» Il a envoyé son recommandé par Internet. Et là, on se dit « formidable, merveilleux, fantastique, je vais faire la même chose ». J'aimerais qu'on m'explique pourquoi le gars de la pub. Sa démarche par Internet lui prend une seconde et ça marche. On ne lui demande donc pas à lui son numéro d'adhérent qu'il a perdu, de client qui ne marche plus, d'abonnement qu'il n'a jamais eu. On ne lui demande pas non plus son code perso, son code secret, son mot de passe. On ne lui demande pas s'il est un robot. On ne lui demande pas de réinitialiser son mot de passe. On ne lui dit pas que les champs ci-dessus sont obligatoires quand il les a déjà remplis 8 fois, que son mot de passe doit comporter 72 caractères avec 2 majuscules, 7 minuscules, 3 chiffres et demi, 1 point virgule et une tête de mort. On ne lui dit pas non plus que la validation a expiré. J'ai une grande nouvelle pour nous tous. Nous avons enfin la preuve que Dieu existe. Il s'est incarné parmi nous. C'est le gars qui envoie la lettre commandée en une minute. Ça, c'est fort. Ça, c'est autre chose que ressusciter les morts.
Bonjour, je m'appelle Rémi. J'ai 5 ans. J'aimerais savoir si Dieu existe.
Bonjour Rémi, tu as 5 ans. Tu sais peut-être déjà qui était Saint Rémi. C'était un évêque à Reims. C'est lui qui a sacré Clovis, le roi de France. Alors, est-ce que Dieu existe? Eh bien, je ne sais pas si Dieu existe. Personne ne sait avec certitude si Dieu existe.
Attendez, Odon, allez-vous consacrer votre vie professionnelle en religion? Et vraiment, vous savez pas ou vous voulez pas lui dire?
Non, je sais pas. Je peux savoir l'heure qu'il est. Il suffit de regarder ma montre. Mais savoir si Dieu existe, j'ai beau regarder... Dehors, sur un cadran, je ne verrai rien. Alors peut-être je crois ou je ne crois pas. C'est-à-dire qu'on peut croire en Dieu. Croire en Dieu, ça n'est pas être certain, être sûr qu'il existe. Comme tu peux être sûr, Rémi, que ta mère existe parce que tu la vois. Croire en Dieu, ça veut dire que on a confiance en lui. Croire, c'est... accorder son cœur à Dieu, c'est accorder sa confiance. Quand tes parents vont à la banque, ils vont peut-être demander un crédit. Par exemple, pour, je sais pas moi, acheter un appartement, la maison où tu habites. Crédit et credo, c'est le même mot. Credo, ça veut dire en latin « je crois en Dieu ». Crédit, ça veut dire que la banque a confiance en tes parents parce qu'ils vont rembourser. Donc, ils vont lui accorder un emprunt. Alors, croire en Dieu... c'est accorder crédit à sa parole, c'est avoir confiance en lui. Certains ont confiance en Dieu, d'autres pas. Et puis c'est pas toujours tout à fait le même Dieu. Alors je ne sais pas si Dieu existe, mais je crois qu'il y a des gens qui croient en Dieu. Et ça je suis même sûr qu'il y a des gens qui croient en Dieu.
Mais c'est absolument vrai ce que vous dites. On dit « je crois en Dieu », on dit pas « je sais ».
Non, on dit pas « je sais », on dit « je crois ». Les chrétiens disent « je crois en un seul Dieu ». C'est-à-dire qu'il n'y en a pas d'autre pour eux. D'autres, dans d'autres pays, par exemple en Inde, croient en plusieurs dieux. C'est différent. Et puis enfin, d'autres ne croient pas en Dieu. Ou certains disent « peut-être qu'il existe, peut-être qu'il n'existe pas, je n'en sais rien ». Ils ne savent pas si Dieu existe ou pas, ce sont ce qu'on appelle les agnostiques. Il y a plusieurs façons de croire ou de ne pas croire en Dieu. Alors moi, il y a une phrase d'un poète qui s'appelle Aragon, que j'aime beaucoup. C'était pendant la Résistance, tu sais Rémi, il y avait de grands résistants comme Destiendorf qui a été fusillé par les Allemands et qui était très chrétien, très croyant. Et puis il y en avait d'autres, comme le jeune Guy Mocquet, aussi fusillé, un grand résistant qui lui ne croyait pas en Dieu. Et Aragon leur a dédié un magnifique poème à celui qui croit au ciel et à celui qui n'y croit pas. Tous les deux méritent notre respect.
Ça fait plus de 20 ans que Don Valet vient au petit bateau et nous l'aimons beaucoup. Il avait répondu à cette question, ça fait bien longtemps, et elle est revenue sur le devant de la scène. Il a écrit, entre autres, chez Gallimard, une nouvelle histoire des religions. Le principe des petits bateaux, vous le connaissez, des enfants posent des questions et nous, nous trouvons des spécialistes pour leur répondre. Ce soir, vous avez demandé pourquoi les fourchettes ont quatre dents, comment font les mouches pour tenir sur le plafond la tête en bas et pourquoi les Gaulois ont fait la guerre aux Romains ou l'inverse.
Bonjour, je m'appelle Bleuen, j'ai 6 ans et demi et je voudrais savoir comment les singes sont devenus des hommes. Au revoir.
Bonjour, je m'appelle Augustine et j'ai 5 ans. Je voudrais poser la question, comment les hommes préhistoriques se sont transformés? Est-ce que l'homme d'aujourd'hui continue à se transformer?
Ça grésille un peu, mais les questions sont bien intéressantes, Evelyne Heyer, Augustine et Bleuen. Comment les singes sont devenus des hommes? Est-ce qu'on continue à se transformer? Demande Augustine.
Alors oui, d'abord la réponse est oui, on continue à se transformer parce qu'en fait, on évolue toujours parce que l'évolution, elle continue d'agir. Alors comment ça marche l'évolution? Eh ben, on a des nouveautés génétiques qui apparaissent, qui sont des mutations, et après ça, ces mutations, elles vont évoluer au fil du temps, c'est-à-dire elles vont être transmises à des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants. Certaines de ces mutations vont être avantageuses, c'est-à-dire qu'elles vont permettre de mieux s'adapter à l'environnement, par exemple d'être plus grande, d'être plus fort. Et dans ce cas-là, elles vont se transmettre de mieux en mieux et de plus en plus vite au fil des générations. Mais il y a aussi beaucoup de nouveautés génétiques qui ne donnent pas d'avantage. C'est ce qu'on appelle des mutations neutres. Et elles vont évoluer tranquillement à leur rythme au fil du temps. Et donc c'est ce processus en fait qui est un peu le hasard des mutations, le hasard de ce qu'elles vont devenir avec un petit peu, mais juste un petit peu de sélection naturelle, qui explique tout ce qu'on trouve sur la planète de vivant, et notamment ce qui explique les différences entre l'homme et les autres primates non humains, le chimpanzé, le gorille, l'orang-outan. Et au fur et à mesure du temps, il y a eu des différences qui se créent entre les espèces. Donc par exemple, entre l'homme et le chimpanzé, on estime que les deux espèces se sont séparées il y a entre 8 et 10 millions d'années. Et donc entre 8 et 10 millions d'années, au fur et à mesure, ces petites nouveautés génétiques au fil du temps, plus un petit peu de sélection naturelle, on fait les différences entre un homme et un chimpanzé. Et ce processus continue d'agir. On a toujours des nouveautés génétiques qui apparaissent.
Donc on va encore se transformer.
Mais ça prend du temps, hein, ça prend des millions d'années.
Evelyne Heyer est professeure en anthropologie génétique au Muséum National d'Histoire Naturelle. Vous trouverez le titre de son tout dernier livre sur le site des Petits Bateaux.
laissez-moi pour aller. Et c'est destin l'humanité. Faut nous souffrir. Pour nous vivre assis la terre. Tout pour qu'à partir au calé. Chaque jour bon Dieu fait moi qu'à demander. Pour continuer, si mon nom m'a gardé moi, mais vous laissez moi pour aller.
Jolie sonorité, c'était le groupe Delgrès, choisi par Jean-Baptiste Audibert.
Les petits bateaux sur France Inter.
Peut-être grâce ou à cause d'Astérix le Gaulois, nous avons beaucoup d'idées préconçues sur les Romains et les Gaulois.
Bonjour, je m'appelle Gabriel. Je voudrais savoir pourquoi les Gaulois ont fait la guerre aux Romains ou l'inverse. Merci, au revoir.
Bonsoir Gabriel. Yann Le Boeck, professeur émérite de l'Université Paris-Sorbonne, le dernier de la longue liste de vos livres s'appelle « La vie quotidienne des soldats romains à l'apogée de l'Empire » chez Talendi. Pourquoi les Gaulois ont fait la guerre aux Romains ou l'inverse ? Demande Gabriel. Ou l'inverse, point d'interrogation.
Eh bien, je peux répondre à Gabriel que ce n'est pas l'inverse. Ce sont les Gaulois qui ont commencé. Rome était une ville qui était riche, prospère, dans laquelle se trouvaient beaucoup de biens, de l'or, des vêtements, des tissus, des armes, des métaux, toutes ces choses que les anciens appréciaient beaucoup. Et donc les Gaulois sont descendus depuis la vallée du Danube, ils se sont installés en Italie du Nord d'abord, et depuis, enfin ce que nous appelons l'Italie du Nord, et depuis l'Italie du Nord, c'est-à-dire la plaine du Pô si vous préférez, ils ont mené des raids plus au sud, et surtout vers Rome, parce que c'était une ville riche, et que les Gaulois étaient animés par une volonté qui était très simple, c'était de faire du pillage. Donc les Romains ont été attaqués par les Gaulois. Mais rassurez-vous, les Romains n'étaient pas des gens totalement vertueux, eux aussi faisaient du pillage. Cela dit, bon, le pillage des autres est mauvais, le nôtre est bon.
Oui, évidemment, c'est toujours comme ça. Mais les Romains n'avaient pas fait de pillage chez les Gaulois. Ils avaient fait du pillage, c'est peut-être pour ça qu'ils étaient riches d'ailleurs, mais ailleurs.
Partout. Les Romains n'avaient aucune préférence. Là où il y avait des richesses à prendre, ils les prenaient. Et effectivement, ils n'étaient pas allés chez les Gaulois, qui étaient justement à cette époque-là des gens pauvres. Ils allaient évidemment vers la Campanie, vers l'Étrurie, qui étaient des territoires riches, éventuellement vers la Grèce, le monde de Carthage, la Sicile, des territoires dans lesquels il y avait beaucoup de biens. Alors, les Romains ont d'abord eu peur quand ils ont vu les Gaulois. C'est quelque chose qui peut nous étonner, mais que nous trouvons chez les auteurs anciens, chez César, chez Olugel et quelques autres. Et ce n'est pas du racisme. Oui, Olugel, c'est un auteur du IIe siècle qui avait des insomnies. Et pendant ces insomnies, il écrivait des tas de petites choses, des petites notices qui sont très très intéressantes. C'est passionnant à lire.
Ça s'écrit comment, Olugel ?
A-U-L-U, trait d'union, G-E-L-L-E.
Merci.
Et donc, tous ces auteurs, César, Olugel et autres, disaient que les Gaulois étaient terrifiants. Pour une raison qui va vous surprendre, c'est parce qu'ils avaient des yeux bleus et des cheveux blonds. En outre, ils étaient grands et forts. Et les Italiens, c'est César qui le dit, étaient petits et bruns. Et donc, quand ils ont vu arriver ces monstres, ça les a effrayés. Mais bon, quand on est attaqué, on se défend. Ils se sont défendus et ces attaques qui ont eu lieu au cours du IIIe siècle avant notre ère ont eu une conséquence que pour les Romains, le Gaulois est devenu l'ennemi héréditaire. Et cette notion d'ennemi héréditaire que nous avons eue en France contre l'Allemagne ou qu'il y a eu en Allemagne contre la France au XIXe et au XXe siècle existait déjà chez les Romains et aussi bien que chez les Gaulois. Donc le Gaulois est devenu l'ennemi héréditaire et quand César deux siècles et demi plus tard, a commencé la guerre des Gaules, tous les Romains ont applaudi parce que c'était une vengeance justifiée et légitime.
Alors, est-ce que c'est moi qui n'ai rien compris, ou est-ce que en primaire, on nous enseigne que c'est quand même les Romains qui ont envahi la Gaule en omettant de dire que les Gaulois étaient déjà allés les visiter auparavant?
C'est une erreur, enfin c'est une lacune, c'est quelque chose qu'on a oublié de vous dire. Mais effectivement, au cours du IIIe siècle, les Gaulois ont attaqué Rome, ont assiégé la ville. Vous connaissez au moins le nom de Brennus, dont oui, le bouclier est utilisé par nos rugbymen. Brennus était un des chefs gaulois qui a assiégé Rome pour récupérer de l'or.
Eh bien voilà, une vérité rétablie. Merci Yann Le Boeck. Vous rappelez-vous, ça concerne pas forcément les plus jeunes d'entre nous, vous rappelez-vous cette publicité? Décidément, je parle beaucoup de publicité aujourd'hui. Il s'agit de quelqu'un qui était dans sa maison, il entend sonner, il ouvre la porte, et en ouvrant la porte, le visiteur n'a pas la tête en haut, il a la tête en bas, et les pieds collés au plafond. C'était une publicité pour la colle, pour dire que la colle était efficace, qu'elle collait bien, puisqu'elle pouvait coller un bonhomme les pieds au plafond.
Bonjour, je m'appelle Liam, j'ai 7 ans, et je voudrais savoir pourquoi les insectes marchent au plafond et pas les chats? Merci de me répondre. Au revoir.
Bonjour, je m'appelle Zoé. J'aimerais savoir comment font les mouches pour tenir au plafond la tête en bas.
Il y a, mais Zoé, il y a eu, Vincent Alboué, des centaines de questions semblables. Nous avons pris Liam et Zoé, la justice n'est pas de ce monde. Vous êtes entomologiste, auteur naturaliste, auteur de cette histoire remarquable des insectes, édité chez Delachaux et Niesley. La tête en bas, les pattes collées au plafond. Liam et Zoé.
Alors, c'est pas très difficile. En fait, les mouches et beaucoup d'insectes qui peuvent monter sur les parois lisses, voire rester sur les plafonds, ont des, ce qu'on appelle des aroliums en langue scientifique.
Des
en fait,
varoliums.
Non, aroliums.
Aroliums avec un A.
Oui, avec un A. Ce sont en fait des sortes de touffes de poils plus ou moins collants qui vont leur permettre d'adhérer au support, donc de se maintenir tête en bas s'il le faut. Alors c'est très facile pour les insectes de se tenir tête en bas parce que ils sont tous très petits, donc ils pèsent très peu. Un homme, c'est 70 kilos, le plus gros des insectes, ça va être 100 grammes, et lui, il ne tient pas au plafond. Mais une mouche, c'est même pas un gramme, c'est quelques dizaines ou centaines de milligrammes, donc c'est presque rien. Et donc, c'est plus facile pour eux de tenir au plafond. Mais la principale raison reste quand même ces espèces de touffes de poils collants, donc pas des ventouses, puisque ça ne marche pas en supprimant l'air en dessous, mais enfin, on pourrait assimiler ça un peu à des ventouses.
À des post-it.
Voilà, à des post-it, voilà, qui leur permettent de tenir en haut. Sachant que si les chats ne tiennent pas, c'est d'abord parce qu'ils sont gros, puis aussi parce que leur griffe ne peut pas se planter dans les plafonds. Peut-être que sur un plafond de liège, certains chats arriveraient à tenir au plafond. En tout cas, il y a au moins un vertébré qui arrive à tenir au plafond. Il vit dans la région méditerranéenne, c'est la tarente ou le gecko, c'est un lézard qui a des grandes ventouses au bout des pattes, au bout des doigts des pattes, qui vit la nuit surtout, et qui peut se tenir sur les plafonds, ce qui fait que ça pose des problèmes. J'ai un ami entomologiste qui a vécu au Maroc assez longtemps, où il y avait beaucoup de gecko, et il me disait que c'était quand même pénible le matin de retrouver toutes ces notes avec des crottes de gecko dessus, parce qu'ils étaient au plafond.
Ah oui, effectivement. Et ils sont apparemment confortables s'ils passent la nuit comme ça.
Oui, oui, parce que justement, ils chassent, eux, les insectes, qui eux aussi ont des ventouses comme les mouches, et ils viennent manger les mouches qui se croyaient à l'abri au plafond et ratées.
Les insectes ont parfois mauvaise presse, ils sont moins sympathiques que des animaux poilus, que des lions, que des tigres, que des chiens. Ils sont pourtant tout à fait extraordinaires, tout à fait performants, tout à fait étonnants et même sympathiques.
China girl, I feel the rain.
China Girl est une chanson qui a été coécrite par David Bowie et Iggy Pop. Et China Girl a vraiment existé. C'était une vraie jeune fille. Une autre chanson qui n'était pas très jolie au départ, mais qui a été tellement bien récupérée par Michel Polnareff. Il n'y a qu'un cheveu sur la tête à Mathieu, il n'y a qu'une dent dans la mâchoire à Jean.
Bonjour, je m'appelle Oregon et j'ai 6 ans. J'aimerais savoir pourquoi les fourchettes ont 4 dents. Merci.
En voilà une bonne idée, je ne m'étais jamais posé cette question, Oriane. Loïc, bien assis, savez-vous pourquoi la fourchette a 4 dents? Vous êtes historien à l'Institut européen d'histoire et des cultures de l'alimentation à l'Université de Tours.
Bonsoir, bonsoir Oriane. Alors, je vais me permettre d'abord de un peu parler de l'histoire de la fourchette. Il faut savoir qu'on trouve des fourchettes dès l'Antiquité, mais sans doute pas comme couvert individuel. Ce sont des fourchettes à 2 dents pour servir, sans doute pour assurer le service. Au Moyen-Âge, on n'utilise pas de fourchette. On en trouve, là aussi, des fourchettes à 2 dents, en Italie, en France, mais ce sont clairement des fourchettes de service, et non pas des fourchettes, là encore, couverts individuels.
Des grandes piques.
C'est ça, exactement. Alors évidemment, c'est pas toujours simple de savoir, hein, parce que si l'archéologue y trouve une fourchette, c'est pas pour ça qu'il sait très bien quel usage en était fait. On a le même problème, par exemple, entre les assiettes et les plateaux. Hein. Parfois, on ne sait pas toujours. Hein. D'ailleurs, il n'y avait pas d'assiette non plus au Moyen-Âge. Hein. Donc, le pays le premier à avoir utilisé la fourchette, c'est l'Italie. C'est l'Italie, on peut dire qu'au XVe siècle, parmi les plus riches Italiens, l'aristocratie, la haute bourgeoisie, on utilise de la fourchette couvert individuel. Mais une fourchette qui, à l'époque, généralement a 2 ou 3 dents. Il est très rare d'en trouver à 4 dents. Ça peut se trouver, mais c'est rare. En France, la fourchette va pénétrer au XVIe siècle, à la Renaissance. On voit par exemple un inventaire après décès d'une grande aristocrate où on voit que dans ce qu'elle possède, il y a des fourchettes. Donc, ça pénètre l'aristocratie, mais très lentement en France. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'il y a un mythe qui circule, qui est que c'est Catherine de Médicis qui serait venue dans ses bagages la fourchette et qui aurait appris à l'aristocratie française à s'en servir. C'est totalement un mythe. Il y a une influence italienne, sans doute, et on imite ce que font les Italiens, on utilise des fourchettes, mais Catherine de Médicis n'a pas grand-chose à voir avec ça, ni son fils Henri III, autre légende. Non, ce qu'on peut voir, c'est qu'au XVIe siècle, l'aristocratie commence à utiliser de plus en plus la fourchette.
Pourquoi, à votre avis? Pour pas salir les doigts, pas s'essuyer sur ses beaux habits, tout ça?
Peut-être. Par exemple, on avance souvent une explication. C'est qu'ils avaient des fraises, vous savez, ces cols compliqués et blancs, empesés, et qu'il fallait, pour ne pas les souiller, qu'il était plus simple d'utiliser une fourchette. Difficile d'isoler une explication très claire. En tout cas, XVIe siècle, l'aristocratie commence à l'utiliser. XVIIe siècle, elle commence à être bien installée, mais quand même, Louis XIV, par exemple, refusait, donc on est à la fin du XVIIe siècle, refusait d'utiliser la fourchette.
Ah bon?
Il conseillait à ses enfants, à ses petits-enfants d'ailleurs, de ne pas utiliser la fourchette. Il estimait que c'était pas un usage qui était convenable, donc lui refusait. Donc, le vrai triomphe de la fourchette, c'est le XVIIIe siècle. Et c'est à ce moment-là que d'ailleurs la fourchette devient réellement, elle l'était déjà un peu avant, à 4 dents. La fourchette qu'on connaît prend sa forme définitive à ce moment-là. Parce que finalement, elle est plus simple d'utilisation. On la fait moins piquante, pour quand même pas se blesser. On la recourbe un peu, pour aussi prendre certains aliments, comme on faisait avec la cuillère. Et comme les quatre dents resserrées permettent finalement une utilisation qui se rapproche de celle de la cuillère, on a un double usage.
Et alors, vous qui êtes au fait de ces histoires d'alimentation, parce que c'est votre métier, Loïc Bienassi, finalement, les gens qui se nourrissent avec une fourchette dans le monde ne sont pas majoritaires, si ?
Majoritaire, non, sans doute pas.
C'est on mange vrai. Beaucoup avec ses doigts.
Tout à fait, avec ses doigts ou avec des baguettes.
Hein, eh oui,
Donc oui, clairement, c'est juste un usage parmi d'autres. Et d'ailleurs, tout ce que je viens de vous dire sur la fourchette, il faut bien voir que là, je parlais de l'aristocratie, des élites. Mais les paysans au XVIIIe siècle ne mangeaient pas avec une fourchette. Hein. C'est-à-dire que c'est même devenu quelque chose de courant en Europe au cours du 19e siècle, simplement. Donc finalement, historiquement, quelque chose de très récent. Le socle de l'alimentation paysanne, c'était la soupe avec du pain dedans. Donc une cuillère suffisait.
Loïc Bienassi, merci. C'est formidable d'avoir une fourchette, mais c'est délicieux de manger avec ses doigts. C'est délicieux aussi, au cours d'un pique-nique, par exemple, d'attraper un morceau de fromage à la pointe du couteau. À propos de nourriture, à Lascaux, on ne voit rien de végétal. C'est le règne de l'animal. C'est pourtant bien l'herbe qui fait le renne, écrit Pierre Liotagui dans l'introduction de son livre « La plante compagne » édité chez Actes Sud. Vous vous en doutez, il y parle de plantes, celles qu'on voit bien, celles qu'on voit moins. Il nous parle de transport. Non, il ne s'agit là ni de la RATP, ni d'aucun bus ou tramway, mais de transport amoureux, avec la verveine par exemple. Saviez-vous que si vous touchez avec des mains passées au jus de verveine une personne que vous aimez, elle vous aimera à son tour et n'aimera que vous ? La verveine, associée à quelques formules mystérieuses très anciennes retrouvées par Pierre Liotagui, a d'autres pouvoirs dans le domaine de l'amour que je ne peux citer ici. Et moi qui pensais qu'en tisane, elle faisait dormir. Plus sage, vous pouvez ramasser de la saponaire qui enlève les taches des habits et soigne les dartres. Saviez-vous qu'elle nettoie aussi de l'intérieur ? En infusion, elle purifie le sang, disaient les anciens. Ce livre en dit long sur nos ancêtres, nos campagnes, la nature en général et la poésie en particulier, édité chez Actes Sud, La plante compagne de Pierre Liotagui. C'était une rediffusion des Petits Bateaux du dimanche 4 octobre 2020. Podcastez, mes amis, podcastez ces Petits Bateaux ou bien réécoutez-les tout simplement par franceinter.fr. Eliane Girard, Marjorie Devoucoux, Noël Bréham, nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain à partir de 19h30.